Allez, on marche encore une petite heure.
Ouais, tout le monde, on est prêts.
Allez, zou.
Deuxième partie donc de notre bivouac cosmique spécial Nuit des étoiles avec pour thème principal les terres habitables. Est-on certain que les critères que l'on utilise pour déterminer si une planète peut ou non abriter la vie sont les bons? Est-ce vraiment en cherchant des planètes jumelles de la nôtre que l'on a le plus de chances de découvrir des formes de vie extraterrestres? Ce sont des questions que nous aborderons avec mes invités. L'astrophysicien Frank Celsis, découvreur de nombreuses exoplanètes, dont un système solaire avec plusieurs terres tournant autour d'une même étoile, le système de l'étoile Trappiste 1 dont nous parlerons, le planétologue Sylvain Boulet qui revient tout de suite du désert d'Atacama au Chili, il nous dira ce qu'il y a fait, et le journaliste à ciel et espace Philippe Hénarejos qui nous dira tout à l'heure quoi observer dans le ciel de ce mois d'août.
Voilà, je me suis allongé sur mon duvet par terre à côté du télescope. C'est une expérience que tout le monde devrait pouvoir faire un jour, de s'allonger par terre avec, juste en face de soi, le centre galactique. Avec un ciel comme ça à 360 degrés autour de soi, on a vraiment l'impression qu'au bout d'un moment, peut être assez vertigineuse d'être allongé pratiquement directement dans le ciel, quoi. Comme allongé sur un astéroïde, et on a l'univers en face de soi.
Le journaliste Serge Brunier dans le désert d'Atacama au Chili pour La Tête au Carré sur France Inter. Sylvain Boulet, vous revenez tout juste du Chili. Je crois que votre avion s'est posé ce matin même.
Exactement, ce matin même.
Vous n'êtes pas trop. Vous avez l'air en forme, pas trop décalé.
Ça va. Quand on revient du Chili, ça va. C'est un bel endroit. On a vu plein de belles choses. On en a mis plein les yeux. Donc tout va bien.
Vous y êtes allé pas pour des vacances. Hein. Vous y êtes allé avec une équipe d'astronomes. Quel était le but de ce voyage?
Tout à fait. En fait, c'est un programme qui est mené par l'Observatoire de Paris, notamment par Bruno Sicardi, et ce programme a pour objectif d'observer des occultations d'étoiles par des astéroïdes. Et en fait, quand on regarde en fait certaines étoiles, on se rend compte qu'à certains moments, eh bien ces étoiles, leur éclat diminue d'un coup, tout simplement parce qu'il y a un astéroïde qui passe devant. Et donc du coup, là, on a été plusieurs à partir au Chili pour observer l'occultation d'une étoile par l'astéroïde Chariclo. Chariclo, c'est un astéroïde assez incroyable parce que c'est le seul astéroïde qu'on connaisse qui a des anneaux. Ça c'est quand même assez incroyable. Voilà une découverte, une surprise que nous a réservé le système solaire, parce que pour l'instant on ne savait pas que ça pouvait exister. Et donc voilà, on est parti à plusieurs, on est allé chercher des petits télescopes, on s'est un petit peu dispersé dans le désert d'Atacama pour être situé à différents endroits, pour observer finalement l'astéroïde sous différents angles, pour essayer de reconstituer justement la forme de l'astéroïde et la forme des anneaux. Et c'est quand même un moment assez incroyable, parce que voilà, vous êtes sur Terre et puis pendant 12 secondes vous voyez l'étoile disparaître. Il y a un astéroïde que vous ne voyez pas et pourtant l'étoile disparaît. Et naturellement, grâce à la durée d'occultation, eh bien vous êtes en mesure de déterminer la forme de l'astéroïde, de voir les anneaux également. Et naturellement, le plus gros télescope qui soit sur Terre ou dans l'espace ne pourrait pas voir ce qu'on a vu grâce à cette petite occultation. Ouais. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fantastique de voir l'étoile disparaître.
Ouais. C'est une éclipse un peu originale.
On parlait de transit d'exoplanètes, c'est un peu la même chose, sauf qu'évidemment l'astéroïde est beaucoup plus proche et l'étoile est beaucoup plus lointaine, mais c'est exactement ça. Et donc on arrive à avoir un témoignage du fin fond du système solaire pendant quelques secondes.
Ouais, ça fait voyager de s'intéresser à l'espace, pas seulement par la pensée, pas seulement par sonde ou par télescope interposé. Vous étiez donc dans ce désert d'Atacama au Chili. Et vous, Philippe Hénarejos, il n'y a pas très longtemps, vous êtes parti au Mexique pour aller voir des astronomes. Racontez.
Oui, alors je suis allé au début avril au Mexique, car là, sur le sommet d'un volcan, alors c'est le volcan dans toute sa splendeur, c'est vraiment un cône avec une antenne millimétrique placée en haut, et pas n'importe laquelle, c'est la plus grosse antenne millimétrique qui existe, c'est une antenne de 50 mètres de diamètre qui est mobile, donc c'est une espèce de gros radiotélescope vu de l'extérieur. Et là-bas, des équipes d'astronomes étaient là, et regarder la même cible en même temps que 8 autres observatoires millimétriques répartis sur toute la planète, dont un au pôle sud. Mmh. Tout ça pour essayer de faire la photographie du trou noir qui se trouve au centre de la Voie lactée. Alors c'est de nouveau une histoire de jeu d'ombre, puisqu'un trou noir, par définition, ça n'émet aucune lumière. Ce qu'on essaie de voir en tentant cette photographie, c'est de voir l'ombre du trou noir, c'est-à-dire l'absence de lumière sur un fond qui serait plus clair. Alors pourquoi il fallait observer avec plusieurs télescopes dispersés? Ben parce que c'est très loin, c'est très petit, et il fallait simuler un télescope aussi grand que la Terre. Et pour ça, c'est ce qu'on appelle de l'interférométrie. Mmh. En gros, on réunit les faisceaux de plusieurs télescopes séparés du diamètre de la Terre, et on obtient l'équivalent d'un télescope aussi gros que la Terre. Alors la photo n'est pas encore développée, pour employer un terme qui date de la photo argentique, parce que les données vont être regroupées a posteriori, et que le télescope qui se trouve au pôle sud, eh bien les gens sont bloqués là-bas, c'est la nuit polaire, il n'y a pas d'aller et venu en ce moment, il faut attendre la fin de la nuit polaire, ce sera au moment à peu près à l'automne pour nous, en octobre. Ouais. On ramènera les disques durs avec toutes les données, là les astronomes feront leur développement et on verra si on a enfin cette photo. Mais c'est extraordinaire parce qu'on se rend compte qu'il faut aller dans des endroits étonnants pour observer le ciel. Là, ce volcan était à 4600 mètres d'altitude. C'est un endroit tout à fait improbable. On domine les hauts plateaux environnants. C'est vraiment extraordinaire.
Franck Celsis, vous, votre goût pour l'espace et pour les observations spatiales vous a conduit jusqu'à Hawaï, où se trouvent là encore des grands télescopes.
Oui, alors moi, je suis le plus casanier des trois. J'ai eu voyagé un peu, mais je suis pas très observateur. Je dépends peu des instruments terrestres, mais effectivement, parmi les endroits où je suis allé, j'ai pu aller au sommet du Mauna Kea, où toute une batterie de grands télescopes de tout type sont installés. Et c'est une expérience incroyable. On est quand même à plus de 4000 mètres. Ouais. Il y a moins d'oxygène, clairement. On a encore beaucoup plus qu'à Atacama, mais c'est un grand souvenir.
Mais alors la question qui se pose, c'est pourquoi diable vont-ils installer leurs instruments dans des endroits aussi paumés que sont le désert d'Atacama au Chili, l'île d'Hawaï à 4000 mètres d'altitude? Pourquoi on fait ça, Sylvain Boulet?
Il faut naturellement, on cherche les endroits où on a le ciel le plus pur, où on a le maximum de beau temps. Quand vous êtes dans le désert d'Atacama, là, avec le VLT au Cerro Paranal, vous avez quasiment 350 nuits par an de beau temps. Donc déjà, vous avez une statistique de beau temps incroyable. Ensuite, vous êtes en général en altitude à 2000, 3000 mètres, Mauna Kea à 4002. Donc là, d'un coup, vous avez une atmosphère très pure. Vous allez avoir des conditions d'observation avec une absence de turbulence qui vont vous permettre des observations de très haut rang. Le désert Atacama, on a cette chance de s'être installé là-bas. C'est vrai qu'on a plusieurs observatoires, c'est un peu martien, hein, vraiment. Moi, ça a été ma sensation d'aller se balader là-bas. Vous êtes sur presque une autre planète avec des observatoires qui vous rapprochent finalement des étoiles.
Ouais. Vous vous sentez l'âme d'explorateur les uns et les autres. Franck, celle-ci, vous qui vous intéressez à ces exoplanètes lointaines, hein, qui sont le thème principal de nos deux heures, vous vous sentez le Christophe Colomb du 21e siècle?
Alors non, mais par contre, j'ai vraiment l'impression de participer à une exploration dans le sens où on ne sait pas vraiment ce qu'on va trouver et on dévoile par petits bouts un mystère. Souvent, je parle d'exploration quand je présente mon travail, et alors les gens disent mais vous pouvez pas y aller. Alors je précise, mais effectivement, on est en train de lever le voile sur des choses et c'est tellement plein de surprises que je pense qu'on peut avoir des sensations, des frissons qui peuvent être similaires à ceux d'explorateurs qui allaient dans des contrées jusque-là inexplorées. Ouais. Donc,
vous éprouvez le frisson de la découverte à proprement parler avec vos télescopes?
Oui, on peut tout à fait dire ça. Oui, des systèmes extrêmement exotiques qui sont dévoilés, auxquels on n'était pas forcément préparé. On le devient un peu plus parce que les exoplanètes nous ont préparé à des configurations très très curieuses. Mais oui, alors que ce soit des découvertes qui sont faites par nous, nos équipes, etc., mais aussi par les autres équipes. Je veux dire, on suit ça au jour le jour. Et j'ai eu la chance de voir dans ma carrière plein de découvertes, d'observations, qui m'ont fait m'asseoir sur ma chaise le temps de digérer ce que je venais de recevoir.
Sylvain Boulet.
C'est marrant, vous parliez de Christophe Colomb, mais en fait, quand au 19e, je reviens à Camille Flammarion, où il imaginait que les Martiens et les Lunaires observaient la Terre. Et en fait, il se disait, tout simplement, les habitants de ces planètes connaissaient bien mieux notre planète Terre que Christophe Colomb à l'époque, en fait. Parce que là, Christophe Colomb avait une vision de la planète Terre finalement assez restreinte. Et finalement, les Martiens là-bas, en voyant la planète Terre avec leur télescope, voyaient bien mieux la planète Terre que Christophe Colomb à l'époque. Et c'est vrai que cette idée de pouvoir comparer, alors, en fait, la planétologie, notamment le système solaire, c'est toujours comparer la planète Terre avec les autres planètes. Alors, c'est peut-être une vision un petit peu restreinte, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour découvrir et comprendre l'histoire géologique de nos planètes, et certainement un jour des exoplanètes, naturellement, notre référence est la planète Terre. Donc, il faut voyager un peu à travers le monde pour essayer de comprendre tous les processus géologiques qui peuvent être actifs sur toutes les autres planètes.
Allez, on va repartir à la découverte de ces planètes dites habitables. Dans un instant, vous allez nous dire ce que l'on entend d'ailleurs par habitable exactement. C'était Overnight, Parcells sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Notre monde est froid et âpre, mais aussi d'une beauté évidente. Les journées sont de 67 heures glaciales. Les nuits sont de 67 heures encore bien plus glaciales. La gravité est extrêmement agréable, 80% de celle de la Terre. En hauteur là où j'ai atterri, l'eau est alcaline et l'air contient trop d'ammoniac pour qu'on puisse le respirer plus de quelques minutes. Mais à la surface, en bas, car il y a une surface, Le chlore s'évapore et l'ammoniac fait place à des cristaux d'hydrocarbures, de l'air respirable et à des substances organiques, voire même à de la vie. Et peut-être même que nous partageons ce monde.
Extrait de Interstellar, qui imagine donc d'autres mondes, d'autres planètes, d'autres conditions. Cette planète telle qu'elle est décrite semble habitable, encore que dans des conditions un peu difficiles tout de même. Mais nous sommes bien sûr dans la science-fiction. Alors Frank Celsis, vous qui travaillez sur ces planètes lointaines, ces exoplanètes hors de notre système solaire, on entend souvent dans les médias « planètes habitables ». Ce sont là quelques planètes habitables que nous avons découvertes. Qu'est-ce qu'on entend quand on est scientifique par « habitable » exactement ?
Oui, alors c'est un mot qui est un petit peu périlleux à utiliser, qui vient en fait de notre jargon, qui au début était dans une petite communauté d'astrophysiciens, et on voulait déterminer, en fait, grosso modo, si vous avez une planète, dans une expérience de pensée, si vous avez une planète qui possède de l'eau, à quelle distance vous pouvez la placer d'une étoile pour que cette eau soit au moins en partie liquide à la surface. Si vous la mettez trop près, il fait trop chaud, elle sera vaporisée. Si vous la mettez trop loin, vous pouvez jouer autant que vous voulez avec les caractéristiques de l'atmosphère pour augmenter l'effet de serre et la réchauffer. Au bout d'un moment, vous n'arriverez plus à maintenir de l'eau liquide à la surface. Et donc, c'est une zone, on va dire, qui intéresse. C'est un discours de climatologue, si vous voulez. C'est vraiment une question de climatologie. Et habitable est un mot un petit peu excessif par rapport à ce que ça signifie. Pourquoi ? Parce que d'abord, on peut trouver une planète donc dans cette gamme de distance à son étoile, mais elle peut ne pas avoir d'eau. Ça peut être un gros caillou qui a la bonne distance et qui n'a pas les prérequis pour avoir ce climat habitable. Par exemple, Mars est dans la zone habitable du Soleil. On pourrait lui imaginer une atmosphère épaisse, des quantités d'eau qui feraient qu'elle aurait des océans à la surface, mais Mars est une planète un petit peu éteinte, qui est petite et qui n'a pas cette capacité de renouveler une atmosphère et qui n'a peut-être même pas assez de composés volatiles sur place. Inversement, si on n'est pas dans cette zone habitable, on peut quand même imaginer, notamment si on est plus loin dans les zones froides d'un système planétaire, on peut imaginer pourquoi pas une vie de subsurface, sous la surface. Et c'est d'ailleurs ce qu'on ne s'interdit pas à imaginer dans le système solaire, en allant éventuellement essayer d'explorer les océans internes des satellites, des planètes géantes. Par contre, c'est une définition absolument fondamentale pour tous les aspects de climat, et pour les exoplanètes où, dans les prochaines décennies, probablement les prochains siècles, on ne pourra pas aller chercher in situ, sur place, sous la surface, on a besoin que si vie il y a, elle puisse s'exprimer d'une façon globale, c'est-à-dire qu'elle puisse transformer la planète, et ça on pense qu'il faut une vie de surface.
Mais c'est ça, c'est-à-dire que là on voit bien toute la difficulté. Vous nous dites sur ces planètes qui sont quand même très très loin de nous, qu'on détecte de façon indirecte, vous nous avez expliqué, c'est par la diminution de lumière qu'on les détecte quand elles passent devant leur étoile, on est en train de se demander peut-être qu'il y a de la vie, mais alors sous la surface. On a déjà du mal à trancher la question pour Mars, qui est la porte, la porte à côté. Comment on a une chance d'arriver un jour à répondre à cette question ?
Justement, vous mettez le doigt sur la différence. On ne pourra pas, en tout cas pas avec les moyens qu'on peut envisager, trouver une vie qui est restreinte à la subsurface d'une planète. Par contre, on pourrait trouver les manifestations, on pourrait voir les manifestations, est-ce qu'on les comprendrait ? Ça, c'est une autre question, mais on pourrait voir les manifestations d'une vie de surface. Pourquoi ? Parce que, et ça, c'est l'histoire de la Terre qui nous l'a appris, la Terre, ayant accès à la surface, la vie, a pu utiliser le rayonnement de son étoile, faire de la photosynthèse, et elle a pu transférer l'énergie du Soleil dans des liaisons chimiques, dans de la chimie, et modifier, transformer complètement la Terre, transformer son atmosphère, transformer ses océans. Et ça, cette action de bactéries, d'algues, c'est visible à des distances astronomiques.
Ouais. Alors, je vais justement vous poser la question, on va inverser les points de vue pour essayer de bien comprendre ce qu'on est capable de faire. Imaginons, on parlait tout à l'heure de cette planète qui a été découverte autour de l'étoile la plus proche de nous, Proxima B, autour de Proxima du Centaure. Et cette planète est donc la plus proche de nous. Si sur cette planète vivait une civilisation équivalente à la nôtre, c'est-à-dire avec les mêmes formes d'intelligence, avec les mêmes avancées technologiques, exactement les mêmes outils techniques que ceux dont on dispose aujourd'hui, est-ce qu'ils arriveraient à détecter la Terre et à capter la présence de vie qui s'y trouve ?
Alors, s'ils avaient vraiment exactement la même technologie, on est avantagé parce que Nous, on les regarde autour d'une toute petite étoile, Proxima, et eux, ils nous regardent autour d'une bonne grosse étoile bien chaude. Donc, je dirais qu'on est dans des... Ce serait assez difficile pour eux de nous trouver avec les technologies qu'on a aujourd'hui.
Donc, on est avantagés. Eux ne sont pas avantagés. Ils n'arriveraient pas à nous voir.
À moins qu'ils nous voient, mais ça, on pourrait le vérifier. Je ne pense pas que ce soit le cas, à moins qu'ils nous voient sous une configuration de transit. Mais ça, c'est très facile
mais
à vérifier.
Mais là, ils identifieraient la Terre, mais avant de voir qu'il y a de la vie dessus...
Alors, vous avez inversé le problème, mais on peut se poser la question. En fait, pour Proxima, on aura prochainement les moyens, s'il y a une atmosphère similaire à celle de la Terre, de la mettre en évidence. On pensait que il faudrait attendre les prochains très grands télescopes comme le EELT qui est actuellement construit au Chili et qui fera 39 mètres de diamètre, où là, on pense qu'on sera capable d'imager, donc pas juste avoir une méthode indirecte, mais de faire une image de l'étoile Proxima et de sa planète, et d'appliquer les méthodes de spectroscopie habituelles pour voir de quoi l'atmosphère, si atmosphère il y a, de la planète est faite. Mais il y a des gens très malins qui ont imaginé pouvoir faire ça avec les télescopes actuels, avec le VLT, télescope de 8 mètres, en couplant ça avec des méthodes d'imagerie par coronographie, un instrument qu'on appelle sphère, en couplant ça avec de la spectroscopie à haute résolution, pour arriver à détecter des molécules qui sont sur la planète, dans son atmosphère, mais qui ne sont pas dans l'étoile. Donc en étant très malin comme ça, on peut arriver à faire sortir des choses.
Philippe Hénarejos, je voyais...
Tout à l'heure, c'est si les proximiens B essaient de nous observer, peut-être qu'ils écoutent la radio. Alors, s'ils ont un énorme radiotélescope, je ne sais pas le diamètre qu'il leur faudrait. En tout cas, nos émissions peuvent leur parvenir. Oui. C'est un moyen aussi.
Alors, donc, s'ils faisaient de la radio, on l'entendrait?
Alors, là, on entre sur une... Il y a deux questions dans la recherche de la vie ailleurs. Moi, dans ma discipline, on s'intéresse aux atmosphères des planètes. Et éventuellement, du coup, on peut envisager voir un jour des atmosphères qui ont été transformées par le vivant. Mais ça n'implique pas un vivant intelligent, un vivant technologique, une civilisation. Après, il y a des gens qui recherchent des signaux artificiels, on appelle ça le SETI. Il y a des gens qui imaginent comment on pourrait chercher à communiquer avec nous, d'autres civilisations, et essayer d'écouter, de regarder, d'explorer le ciel comme ça. Je ne suis pas du tout expert de cet aspect-là, je n'ai pas d'avis négatif dessus, c'est passionnant qu'on fasse ça aussi. Mais c'est vrai que ce n'est pas la question que généralement on se pose dans le domaine de l'astrophysique et de la planétologie.
Dans le hors-série intitulé « Terres habitables, des mondes inattendus de ciel et espace » qui est actuellement dans les kiosques, hein, Philippe Hénarejos, il y a eu une interview de vous, Franck Celsis, qui est absolument passionnante, moi qui m'a vraiment fait me poser des questions. Vous dites, finalement on fait fausse route, on se focalise, on n'arrête pas de chercher des jumelles de la Terre. Et peut-être qu'en fait, c'est une erreur absolue. Peut-être que la Terre est loin d'être les conditions les plus propices à la vie. On est peut-être une sorte d'accident, de rescapé de la vie. Il y a peut-être des lieux bien plus propices à la vie dans l'univers.
Ça, je n'en sais rien. Par contre, je vais essayer d'expliciter un petit peu ça. Le terme de jumelle de la Terre, eh bien, il devient difficile à concevoir, en fait, parce que la Terre, c'est une planète au sein d'un système planétaire qui a plusieurs planètes au sein d'une étoile donnée. Et l'histoire de la Terre, c'est une coévolution dans cet ensemble-là qui, si vous voulez le décrire, vous allez avoir besoin de beaucoup, beaucoup de paramètres. Les distances, les tailles des planètes, le fait qu'il y ait Jupiter, Saturne, tout ça, ça a compté dans l'histoire de la Terre, pour la rotation de la Terre, la formation de la Lune, les impacts sur la Terre, tout ça a compté. Quand on voit la diversité des systèmes planétaires... alors, certains nous demandent, est-ce que le système solaire, il est fréquent ou il est rare? Mais en fait, c'est juste une question qui n'a plus de sens. Si vous considérez dans cette diversité, tous les systèmes planétaires sont assez uniques parce qu'ils sont décrits par immensément par un grand nombre de paramètres. Donc, si on veut, il faudrait définir ce qu'est une jumelle de la Terre. Si vous cherchez une planète qui a à peu près la température de la Terre, à peu près la taille de la Terre, vous allez en trouver beaucoup, mais là-dedans, il y aura une diversité incroyable de conditions de surface, climatologiques, etc. Si par contre, vous voulez aller plus loin et vous voulez ne serait-ce que une planète de la taille et de la température de la Terre autour d'une étoile comme le Soleil, de l'âge du Soleil, et pour être sûr quand même de mettre un peu les choses de façon similaire, vous voulez un Jupiter qui est une planète géante, assez lointaine, sur une orbite qui n'est pas excentrique, vous tombez déjà par ces critères-là à moins d'un millième des étoiles de la population de la galaxie. Alors que probablement, une grande fraction, probablement plus de 10%, peut-être la majorité des étoiles, ont des planètes tempérées de taille et de température similaires à la Terre. L'autre aspect de quand je dis qu'on fait fausse route, c'est que un analogue de la Terre, outre sa rareté, si on y met trop de critères, eh ben, c'était votre question, les proximiens oui. auraient du mal à nous observer. C'est très difficile de trouver et d'analyser les analogues de la Terre. Par contre, une Terre autour d'une toute petite étoile, qui aurait plein de caractéristiques différentes pour plein de raisons qu'on pourrait développer, c'est beaucoup plus facile à faire.
Donc finalement, il vaut mieux chercher ce qu'on a le plus de chances de trouver et qui est peut-être tout aussi propice à la vie, plutôt que de chercher la même situation que la nôtre, qui est finalement assez difficile à observer, si je résume.
Oui, alors il faut tout observer en commençant pragmatiquement par ce qu'on peut observer.
Voilà, ce qui est le plus facile à observer. Sylvain Boulet.
Puis il va falloir être un peu imaginatif, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on cherche des planètes où il y a de l'eau liquide, notamment, mais c'est s'imaginer que finalement, il y a de la vie que parce qu'il y a de l'eau liquide, c'est un problème de poisson. Hein. Imaginez-vous un poisson du Havre qui rencontre un poisson de Trouville qui dit voilà, moi je vis dans une eau salée, du coup dans le ruisseau d'à côté il n'y a pas de sel donc il n'y a pas de vie. Ouais. Donc c'est la même chose, il va falloir effectivement aller un peu plus loin, imaginer quelles pourraient être les autres formes de vie éventuellement qu'on pourrait trouver sur d'autres planètes.
Allez, dans un instant on revient sur une découverte prometteuse, semble-t-il, un système solaire avec plusieurs planètes semblables à la Terre, le système de l'étoile Trappiste, et puis Philippe Hénarejos nous donnera des conseils d'observation à faire pour les nuits du mois d'août. C'était sous garantie, Malik Djoudi sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Alors, expliquez-nous, comment avez-vous fait cette découverte?
Ouf, tiqué un fait.
Oui, ça s'est passé au soir, juste avant de souper.
Oui, parce que vous venez de faire une petite surquête.
On devait démonter notre télescope. Et là, je me dis, est-ce que je jetterai pas un œil une dernière fois?
Exact. Il y a son œil sous le télescope, moi je lui demande qui est l'ouvert, allez.
Et là, on le voit devenir blanc comme une maquée.
Attendez, c'est pas évident, hein, parce que vous dites une maquée, donc.
Une maquée, c'est ça, blanc comme une voie lactée, si vous préférez. D'accord, français, mais il n'y a pas beaucoup de vocabulaire, ouais, quand même.
Et là, je vois un point lumineux de la taille d'une chic.
Moi, je me dis qu'il nous raconte des caravissus.
Attendez, des caras quoi, c'est-à-dire?
Je pense qu'elle a toutes ses frites dans le même sachet.
Pareil, je me suis dit, c'est pas possible. Il louche. Il a un œil qui l'imite à l'autre.
Mais nenni, hein. Moi, je vois une étoile pas plus grande qu'une noquette de beurre et autour, cette petite raouette.
Rien qu'un petit idée, moi, je suis déjà toute sauce.
Oui, ah ouais, mais qu'est-ce qu'on a,
on se rend compte que c'est une découverte qui a cassé la baraque.
Alors, on dit qu'il y aurait trois planètes dans une zone habitable. Qu'est-ce que ça indique précisément?
C'est-à-dire qu'on a un bon espoir d'y trouver de l'eau.
C'est bien la première fois qu'on a l'espoir de trouver de l'eau quelque part.
Bah, ouais, un jour on retrouvera de la gueuse, c'est vraiment la preuve de l'existence et l'intelligence humaine, tu sais.
Un petit clin d'œil au titulaire du créneau 17h sur France Inter pendant l'année. C'était évidemment Charline et sa bande qui avaient fait ce sketch suite à la découverte du système de planètes autour de l'étoile TRAPPIST en février dernier. C'est une découverte très sérieuse qui a été faite et effectivement en partie par des chercheurs belges. C'est pour ça qu'ils s'étaient amusés à imaginer l'interview des chercheurs belges donnant un petit peu des explications. On va essayer d'avoir des explications un peu plus précises avec vous, Franck Celsis. Vous avez vous aussi participé, même si vous n'êtes pas belge. Vous avez aussi participé à cette découverte. Alors, sept planètes de la taille de la Terre, hein, à peu près, dont trois qui pourraient posséder de l'eau liquide, autour d'une étoile. Ça a été présenté, en tout cas dans les médias, comme une découverte d'importance.
Oui, c'est une petite révolution, c'est une découverte importante à cause des conditions extrêmement favorables d'observation de ce système, qui sont liés au fait justement que on n'est pas dans le cas de jumelles de la Terre, on serait presque plus de similitude avec les systèmes des satellites galiléens par exemple, du fait de la toute petite taille de l'étoile. Cette étoile-là, on appelle ça une naine ultrafroide. Plus petit, on appelle plus ça une étoile, on appelle ça une naine brune. Mm-hmm. Ça fait à peu près la taille de Jupiter, ça fait 8-9% de la masse du Soleil.
Mais ça brille quand même, alors beaucoup moins.
Ça brille, c'est beaucoup plus froid, c'est plus petit, donc forcément ça a une luminosité extrêmement faible par rapport au Soleil. Donc ça a deux effets. Ça veut dire, un, d'abord que pour trouver des planètes de la température de la Terre, il faut qu'elles soient très près de leur étoile. Et si elles sont très près, ben elles tournent aussi autour de leur étoile avec des périodes, des années extrêmement courtes. Et ça se nous met dans des bonnes conditions pour les trouver, ces planètes-là, si elles existent. Maintenant, on sait qu'elles existent. Mmh. Parce que on va avoir d'une part des transits, donc ce moment où la planète, si on a la chance d'être bien orienté, où la planète passe devant l'étoile et que ça fait donc une baisse de la luminosité apparente. Cette baisse qui, pour une produite par une Terre devant un Soleil, serait de 1/100 millième, là elle est presque de 1%. Mmh. Donc on est dans des conditions extraordinaires. Et cette baisse, elle va se reproduire tous les quelques jours, à chaque passage. Donc ça nous a motivés pour partir dans ces recherches-là, dont le cœur est effectivement à l'Université de Liège, dans l'équipe de Michael Gillon, qui est à l'origine de ce télescope robotique qui s'appelle TRAPPIST, un petit télescope robotique qui est au Chili, à la CIA, qui suivait ce type de petites étoiles et qui a la bonne idée d'être sensible dans l'infrarouge, puisque ces objets sont très peu lumineux et ils sont encore moins lumineux dans l'optique, dans le visible. Donc il faut les chercher dans l'infrarouge. Et ça a fini par ça a permis la découverte de ce système qui est extraordinaire parce que c'est un laboratoire de planétologie comparée qui va être absolument incroyable.
Mais il est loin de nous, ce laboratoire de planétologie comparée, ce système très étonnant, hein, finalement.
Oui, il est à peu près 10 fois plus loin que Proxima.
Déjà à 4 années
lumière. Oui, donc là, on est à 40. Ça reste l'immédiate banlieue la galaxie. Mais les conditions d'observation sont telles que ces planètes, on mesure très bien leurs rayons par leur passage devant l'étoile. On est en train de mesurer leur masse par des effets sur lesquels je ne vais pas m'étaler ici, mais simplement le système, il est tellement compact qu'en fait on voit les interactions des planètes entre elles, on voit les irrégularités orbitales, les mêmes irrégularités qui ont fait que Le Verrier a pu, par exemple, il y a longtemps, prédire la présence de Neptune par les irrégularités de l'orbite d'Uranus. Là, on voit ces irrégularités, donc on va pouvoir déduire les masses. Et il y a des choses extraordinaires dans ce système.
Il y a aussi des choses un peu étonnantes, parce que un peu comme la Lune nous présente toujours la même face, hein, il y a une face cachée de la Lune qu'on ne voit pas. Là, ces planètes présentent toujours la même face au Soleil. C'est-à-dire qu'elles ont une face en permanence au jour et sous la chaleur de leur étoile, et puis une face en permanence dans l'ombre. On peut imaginer que la vie se développe sur des planètes comme ça ?
Alors, ça c'est une prédiction théorique, mais qui est quand même assez forte. Hein. On a ça dans le système solaire, pour tous les satellites qu'il y a dans le système solaire sont dans ce type de rotation synchrone. Effectivement, c'est très différent de ce qu'on a sur Terre. Ça a un effet dramatique au sens, c'est un effet important sur le climat. Pendant longtemps, on s'est dit, c'est pas là qu'il faut chercher des mondes habitables. Mmh. Mais en fait, plus on étudie ça, et vraiment, c'est un sujet d'étude énorme actuellement, notamment avec des collègues ici à Paris, au laboratoire de météorodynamique, dans le groupe de François Forget, on s'aperçoit qu'au contraire, même dans certaines conditions, le fait d'avoir une planète synchrone, comme ça, ça peut offrir de beaucoup plus grandes chances à l'habitabilité, en stabilisant le climat, et en permettant notamment à ce que, au moins, la région qui fait face à l'étoile et de l'eau liquide si, s'il y a de l'eau.
Sylvain Boulet, vous qui travaillez surtout sur les planètes du système solaire, donc ce ne sont pas des exoplanètes par définition, ce sont les planètes de notre système solaire et puis les petits satellites qui tournent autour des grosses planètes gazeuses. Qu'est-ce que vous avez à vous raconter entre ces chercheurs qui travaillent sur ces planètes ultra lointaines, dont on sait très peu de choses, dont on fait finalement, sur lesquelles on fait énormément de présuppositions, et vous qui êtes quand même sur des mondes beaucoup plus concrets, sur lesquels on peut envoyer des sondes, que l'on peut voir dans des télescopes?
En fait, il y a des techniques, je pense, qui vont être utilisées après par les chercheurs d'exoplanètes, des techniques qu'on a développées aussi pour nos propres planètes. Je prends l'exemple, par exemple, de la Lune. Quand vous observez la lumière cendrée de la Lune, vous avez le rayonnement de la Terre qui est réfléchi, en fait, et qui éclaire la Lune. Et en fait, certains astronomes de l'étude de l'observatoire de Meudon essayent de voir justement dans ce rayonnement lunaire si on peut détecter la chlorophylle terrestre, par exemple. Ça, c'est potentiellement des techniques justement de détection pour voir si on peut détecter la chlorophylle éventuellement dans des exoplanètes. Le méthane sur Mars, par exemple. Si un jour on trouve aussi du méthane sur les exoplanètes, c'est la même chose. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Évidemment, quand on recherche la vie dans le système solaire, eh bien les techniques qu'on développe dans le système solaire, on pourra un jour les développer éventuellement pour aller détecter de la vie sur les exoplanètes.
Franck Celsius.
Oui, en fait, ce qu'il faut vraiment voir avec ce système de TRAPPIST, et même avant de parler de recherche de vie, ce qui n'est pas du tout impossible, à terme, c'est qu'il faut bien comprendre, comme l'a dit Sylvain tout à l'heure, que ce qu'on sait des planètes telluriques, des planètes comme la Terre, et par exemple de leurs atmosphères, on le doit à l'étude de ce qu'on a dans le système solaire. Et c'est grosso modo trois planètes essentiellement qui sont Vénus, la Terre et Mars. Avec TRAPPIST, on a un système de sept planètes de la taille de la Terre, grosso modo, dont les insolations vont typiquement de l'insolation de Mercure à un peu moins que celle de Mars, et pour lesquelles, si elles ont une atmosphère, on va pouvoir normalement la détecter, l'étudier, notamment avec le prochain grand télescope spatial, le télescope spatial James Webb, qui sera lancé à la fin de l'an prochain. Ouais. TRAPPIST 1 est déjà inclus dans les cibles de temps garanties de ce télescope. On sait que s'il y a des atmosphères, on devrait pouvoir les mettre en évidence. Et déjà, en fait, et c'est quelque chose sur lequel on travaille en ce moment, par la mesure précise de la masse et du rayon, on pourrait mettre en évidence le fait que certaines de ces planètes soient riches en volatiles. C'est-à-dire riche en
glace. On parle pas d'oiseaux hein, quand vous dites
volatile.
On est sur
des molécules en eau et en composés gazeux ou en glace, comme les satellites, comme les lunes des planètes géantes qui sont essentiellement, enfin en grande partie faites de glace. On est en train d'améliorer la précision sur les rayons et sur les masses de ces planètes. Et pour l'instant, certaines de ces planètes sembleraient être riches en eau. Je dis semblerait parce que ce sont des mesures difficiles. Il y a encore des barres d'erreur importantes. Il ne faudrait pas qu'on soit déçu si dans deux ans, je vous dis qu'en fait, non, c'est des cailloux sans atmosphère.
En tout cas, c'est des décors formidables pour la science-fiction, hein, ce que vous êtes en train de nous décrire.
Il y a déjà des nouvelles de science-fiction qui se passent dans ce système-là.
En tout cas, ça vous fera peut-être rêver quand vous regarderez le ciel pendant le mois d'août et pendant ce week-end de la nuit des étoiles. Pour vous aider à regarder ce ciel, nous avons autour de la table notre expert Philippe Hénarejos qui va nous dire, alors déjà, peut-être qu'est-ce qu'on peut voir là pendant ces trois soirées de Nuit des Étoiles, ça commence dès ce soir.
Ça commence ce soir. Ouais. Ben, écoutez, dès que le soleil, la seule étoile qu'on peut voir de jour, se couche, le crépuscule commence à s'assombrir. Vous verrez inévitablement la Lune qui est en beau croissant. Sur les sites des nuits, vous pourrez quand même jeter un coup d'œil sur la Lune. C'est toujours fascinant. Il y a du relief, c'est étonnant. À côté de la Lune, juste en dessous de la Lune, vous verrez une grosse étoile. Vous ne pouvez pas la manquer. En fait, ce n'est pas une étoile du tout, c'est la planète Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. On a beaucoup parlé de Jupiter chaud, c'est une marque de repère pour les exoplanètes. Et bien Jupiter est visible à l'œil nu, donc c'est une étoile très brillante, c'est l'astre quasiment le plus brillant du ciel après la Lune en début de soirée. Et si vous avez un télescope à proximité, ne manquez pas, ne tardez pas à aller voir Jupiter, où vous remarquerez certainement quelques-unes de ces bandes nuageuses et puis ses satellites.
On peut la voir avec un bon télescope, la tache rouge dont on parlait tout à l'heure, depuis
avec
le sol.
Avec un bon télescope, pour peu qu'elle soit tournée du bon côté, parce que Jupiter tourne sur elle-même à peu près 10 heures, donc il faut quand même avoir un peu de chance, mais si elle est tournée du bon côté, oui, on peut la voir. Alors c'est quand même assez pastel, il faut voir que les images des sondes spatiales, les couleurs sont renforcées, c'est très criard. Là, au télescope, c'est quand même des petites nuances de gris, de rose, des choses comme ça. Et donc, vous aurez quand même une petite surprise, c'est du côté de l'ouest, à 22h13, il y aura un astre astre artificiel qui passera, et non des moindres, c'est la Station Spatiale Internationale. Alors c'est visible dans toute la France. Alors la position, je ne peux pas vous la donner. Par exemple, si on est à Paris, on la verra passer juste à côté de la Lune et Jupiter. Il n'y a pas plus facile pour la repérer. Et vous constaterez à ce moment-là qu'elle devient plus brillante que Jupiter. Ce sera l'astre le plus brillant après la Lune. Ouais. Elle traverse la voûte céleste en quelques minutes.
On la voit sans difficulté
à l'œil nu. Aucun problème. C'est difficile à voir au télescope parce qu'il faut la suivre, mais il y a des amateurs qui ont réussi à la photographier. On voit les panneaux solaires, etc.
Ouais. Elle va vite, elle va vite. Donc il faut vraiment être là. Vous avez 22h13, à 22h14, c'est passé.
Non, à 22h14, vous l'avez encore. Mais je conseille de s'y prendre un petit peu à l'avance pour ne pas le manquer, le temps de repérer, tout ça. Il vaut mieux avoir de l'avance parce que si vous êtes en retard, en quelques minutes, vous l'aurez manqué. Donc, il y aura un autre passage d'ailleurs de la station demain soir à 22h57. Un peu moins favorable, mais tout aussi intéressant à voir. Donc là, c'est le début de nuit. Ensuite, quand il fera bien sombre, regardez vers le sud, eh bien, vous aurez deux astres, dont un qui sera le plus évident, qui est une étoile un peu jaunâtre, qui scintille pas trop. En fait, c'est toujours pas une étoile. Oui, je vous parle des étoiles, mais en fait, il n'y en a pas une seule pour l'instant. C'est Saturne, la planète aux anneaux. Là aussi, faites-vous montrer Saturne dans un télescope. C'est comme ça que naissent les vocations. Regardez la Lune et regardez Saturne. C'est du relief dans l'œil et ça donne envie d'aller explorer les planètes, aussi lointaines soient-elles. Saturne est à côté d'une autre étoile un peu rouge qui, elle, scintille de mille feux. C'est Antares. C'est une super géante rouge. C'est une étoile en fin de vie, une étoile très massive qui pourrait exploser, peut-être ce soir, si on a de la chance, en supernova.
Ne donnez pas de faux espoirs. Non, je ne donne pas de faux espoirs
parce que plus probablement, ça sera dans quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'années, ce qui n'est rien à l'échelle cosmique. Ouais. Mais donc, comme on ne peut pas le prédire, on peut toujours espérer. Il faut toujours la surveiller, cette étoile-là. Ouais. Elle se trouve à 6 ans d'années-lumière. Et après, eh bien, en fonction de là où vous êtes, vous aurez différentes possibilités d'observation. Si vous êtes en ville, ça va se restreindre très vite à quelques étoiles, à quelques amas d'étoiles. Mais sinon, vous avez toujours la Voie lactée dans laquelle se trouvent des nébuleuses qu'on peut regarder aux jumelles ou au télescope.
Ouais. Et puis, si vous avez la chance de voyager, comme vous, je crois que vous irez aux États-Unis et vous allez peut-être assister à une éclipse totale.
Le 21 août, il y a une éclipse totale qui est l'éclipse totale jumelle de celle de 99 qu'on a vue en France et qui traverse les États-Unis de part en part. Et donc, je vais essayer de la voir en espérant qu'il fera beau.
Sylvain Boulet.
Et puis, il ne faut pas oublier quand même qu'on rentre dans la période des étoiles filantes, des perséides. Hein, oui. Quand même, c'est quand même le mois d'août, c'est marqué pour ça. On a des dizaines d'étoiles filantes à voir à l'œil nu. Donc, le maximum sera tout comme tous les ans autour du 12 août, mais à ne pas rater, évidemment. Hein, donc là, évidemment, la nuit des étoiles est un tout petit peu en décalé, mais du coup, finalement, voilà, il y a de bonnes raisons d'observer le ciel pendant tout le mois d'août.
Une question sur cette nuit des étoiles de Alan, qui nous écoute depuis la Guadeloupe et qu'on salue. Il dit « Je vis en Guadeloupe, mais les nuits des étoiles n'ont pas lieu cette année. C'est bien dommage, car le ciel y est de bonne qualité. Étant moi-même astronome amateur, alors il s'étonne, il demande pourquoi il n'y a pas de nuit des étoiles. Et il dit aussi qu'il a son propre télescope de 200 mm, hein, très précis. Comment puis je partageais facilement l'astronomie en Guadeloupe. Alors, qu'est-ce qu'on lui conseille à Alan?
Alors là,
sortir son télescope, de toute manière, même s'il n'y a pas forcément besoin de faire de la publicité pour observer les étoiles. Donc ce soir et demain, il prend son télescope, il va se mettre dans sa petite ville et puis il montre les étoiles. Après, l'année prochaine, pour, on va dire, être officiellement un site d'observation, qu'il fasse la demande à l'Association française d'astronomie pour faire partie de ces 400 sites, je pense, ou 400 ou 500 sites. Qui observe.
Donc, c'est comme ça que ça marche. On s'inscrit, on est homologué par cette association et on peut soi-même monter
Surtout, on est répertorié ensuite. C'est-à-dire que vous allez sur le site de l'Association française d'astronomie, afastronomie.fr, et vous avez une carte interactive de la France, mais la France pas seulement métropolitaine, où vous avez tous les sites avec les coordonnées, les heures, les animations qui sont répertoriées. Et donc, où que vous soyez, il y a forcément quelque chose qui se passe près de chez vous. Alors, cette fois, pas en Guadeloupe, sauf
si Alan se dévoue, sort son télescope de 200 mm et rameute les Guadeloupéens autour de son télescope. On mettra effectivement le lien qui situe sur le territoire toutes les opérations. Et c'est vrai qu'il y en a énormément de ces opérations. Il y en a forcément une près de chez vous. Allez, suite et fin de nos explorations spatiales. Dans un instant, nos invités répondront aux questions que vous leur avez adressées. On parlera notamment de planètes orphelines, des planètes sans étoiles. Côté du ciel, Françoise Hardy, dans le temps d'un bivouac, la programmation musicale de cette émission est signée Elsa Béranger.
C'est merveilleux.
C'est le mot.
Quel nom vas-tu lui donner ?
Je crois que je l'appellerai Bob.
Bob ?
Tu n'aimes pas Bob ?
On ne peut pas baptiser une planète Bob.
Eh bien maintenant, c'est toi le patron. C'est toi la reine de Bob.
Pas du tout. Mais...
Quoi ?
Pourquoi tu ne l'appelles pas la Terre ?
Un extrait du film Titan AI. Et ça me permet de vous poser cette question, messieurs. Ces planètes ont toujours des noms assez étranges. Hein. On l'a vu dans cette émission, ces planètes que l'on découvre aux confins de la galaxie. Comment on attribue les noms de ces planètes, Franck Celsis ?
Alors, le nom des planètes, c'est le nom de l'étoile, suivi d'une lettre qui correspond à la chronologie de leur découverte. Donc, si vous avez une seule planète, c'est la B. Si vous en trouvez une autre, c'est la C, etc. Et donc, après, les étoiles ont plein de noms.
Ouais.
Elles ont plein de catalogues. Donc, par exemple, Trappiste 1, avant de révéler son système planétaire, avait un nom à rallonge lié à un survet infrarouge quelconque. Et la tradition veut que on lui donne le nom du télescope qui a trouvé les planètes. Donc on a des systèmes qui s'appellent Kepler, Corot, Trappiste 1, etc. Ouais. Après, voilà, il y a des initiatives pour donner des noms plus compréhensibles.
Plus compréhensibles. Allez, il y a des questions qui sont arrivées pour vous, notamment sur les planètes orphelines. Alors, ce sont des planètes qui ne tournent pas autour d'une étoile. Qu'est-ce que c'est qu'une planète orpheline ?
Oui, c'est un petit peu un problème de définition. Ça surprend pas qu'une étoile, puisse être seule. Hein. Il y a des étoiles dans des systèmes, mais la plupart, enfin beaucoup, sont seules. Les étoiles, quand elles se forment, elles ont toute une gamme de masse. En dessous d'une certaine masse, on appelle plus ça étoile, on appelle ça naine brune. Et encore en dessous d'une certaine masse, qui est 13 fois la masse de Jupiter, on entre dans le régime de masse des planètes. Mais finalement, ça se forme pareil. Alors, parmi ces objets de masse planétaire flottant dans l'univers, certains peuvent et sont certainement aussi, il y a un mélange de deux populations, il y a aussi sûrement des planètes qui se sont formées autour d'étoiles et qui ensuite ont été éjectées par un balai un peu violent, un peu instable des planètes de ce système. Donc il y a ce mélange de deux populations.
Alors elles, pour répondre un peu à notre question fil rouge de ces deux heures, elles ne sont pas habitables, on imagine, hein, en se baladant comme ça dans une galaxie un peu en évoluant toute seule. Le manque de régularité d'une étoile qui tourne autour
d'elle. C'est une bonne question. Si la Terre était éjectée, elle se refroidirait, elle aurait une température de moins 230 Kelvin, quelque chose comme ça. Par contre, si cette même Terre avait une atmosphère très épaisse d'hydrogène, le flux de chaleur interne permettrait éventuellement d'avoir de l'eau liquide à la surface, ce qui stimule l'imagination.
Ça se passerait mal pour nous, hein, si la Terre était éjectée de notre système solaire, on est d'accord. Philippe Hénarejos, John demande, pouvez-vous nous parler des signaux provenant d'une naine rouge récemment découverte? On a parlé de mystérieux signaux radio que nous envoyait une étoile lointaine.
Oui, alors là, c'est peut-être l'histoire d'un défaut de communication par des scientifiques eux-mêmes qui observaient une étoile et qui en radio ont reçu des pulses radio assez caractéristiques de ce qui peut être artificiel et qui, avant d'avoir vérifié, ont fait des tweets. Je sais que la politique se fait un peu par tweet en ce moment. Ben, il y a eu un peu un similaire en science et quelques jours après, évidemment, la réponse est arrivée. C'était des émissions qui venaient de satellites géostationnaires bien terrestres.
D'accord. Donc c'était complètement bidon, nul et non avenu.
Non, c'était surtout inutile.
D'accord. Donc on n'en parle pas plus. Ambre demande, Sylvain Boulet, est-ce possible que des formes de vie extraterrestres contredisent tout ce que nous pensons savoir sur la vie?
Je pense qu'il faut rester assez ouvert. Hein. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, notre vie est basée sur le carbone et sur le liquide. Mais c'est vrai qu'on pourrait totalement peut-être imaginer, certains scientifiques le font, d'imaginer peut-être une vie qui est basée plutôt sur le silicium, par exemple. Bon, aujourd'hui, on parle de rien. On ne sait même pas si ça peut exister. Mais en tout cas, c'est des recherches qui nécessitent évidemment du travail. Mais il faut rester ouvert. Et effectivement, on n'est pas à l'abri de surprises. Donc aujourd'hui, c'est la grande question, c'est comment trouver une vie qui ne ressemble pas à la nôtre. Et ça, c'est vraiment, c'est un sujet de recherche en tant que tel.
Allez, 15 secondes chacun. Philippe Hénarejos, vous faites quoi pour la nuit des étoiles, vous?
Eh bien, pour la nuit des étoiles, je serai à Montrouge, au Beffroi, où il y a un de ces fameux 400 sites. J'animerai deux conférences, dont une avec Sylvain Boulet, d'ailleurs. Je l'attrape lui aussi à la sortie de son avion pour aller parler des terres habitables. Donc, je convie naturellement le public à venir à Montrouge, au sud de Paris. Il y a très peu de sites en région parisienne, finalement.
Sylvain Boulet.
Moi, demain soir, je serai à l'Uranoscope de l'Île-de-France. Bon, après avoir fait la conférence avec l'Uranoscope de l'Île-de-France à Gretz-Armavilly, en Seine-et-Marne. Et comme les Nuits des Étoiles, quand même, ne s'arrêtent pas finalement à trois jours, je serai également aussi mercredi prochain sur les quais de Seine, où on installe un petit télescope devant une péniche au Marcounet. Et voilà, et tous les passants sur les quais pourront venir observer la Lune avec nous.
Et puis la semaine prochaine, au Festival de Florence.
Du 5 au 11 août. N'oubliez pas.
Et puis on peut évidemment se procurer ce hors-série Terres habitables, des mondes inattendus de ciel et espace en kiosque actuellement. Merci Franck Celsis, Philippe Hénarejos et Sylvain Boulet d'être venus.
Merci.
Les épreuves sont terminées. Il n'y a pas un dragon qui passe par là. Personne n'a délivré. Mais c'est la retraite. Passe-moi mes chaussons, maman.
Lundi à 16h, nous partirons explorer le gouffre de Padirac. Et puis à 17h, nous suivrons un ornithologue prêt à aller au bout du monde pour observer les spécimens d'oiseaux les plus rares. À lundi donc pour de nouvelles aventures.